vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré aux aidants, un épisode qui fait partie, vous le savez peut-être, d'une série qui vous est plus spécifiquement consacrée pour répondre à vos questions et vous soutenir. Vous êtes nombreux à accompagner vos proches malades et à leur apporter un soutien moral, une aide dans les activités du quotidien, parfois même une aide financière. Un rôle d'aidant qui peut très vite être éprouvant avec un investissement physique, mental et émotionnel très important, ce qui peut malheureusement conduire à un burn-out, à un épuisement. Mais alors comment l'éviter? Comment le prévenir surtout? Pour y répondre, direction la Manche, où une nouvelle formation pour les aidants a vu le jour, une formation qui, on le verra, est même à l'origine d'un dispositif encore plus vaste. Et ça tombe bien, Ophélie Jesbert et Sarah Tesson, qui ont œuvré pour déployer cette approche préventive, sont avec nous pour tout nous expliquer. Bonjour, Madame Jesbert, Madame Tesson.
Bonjour.
Alors, vous êtes toutes les deux psychologues diplômées en neuropsychologie. Vous formez comme un duo, si je puis dire. Vous allez pouvoir nous parler de toute l'équipe, j'imagine. Bah, est-ce que vous pourriez déjà, en quelques mots, vous présenter chacune votre tour? Ophélie, peut-être pour commencer?
Oui, merci. Moi, je suis Ophélie, je suis psychologue et initialement spécialisée en neuropsychologie, donc avec un accompagnement en particulier des maladies neuroévolutives et donc des aidants qui peuvent accompagner leurs proches atteints de ces maladies. Et puis, au cours de mes expériences professionnelles, je me suis orientée vers le Canada et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Lorraine Brissette et Michel Arcan, qui m'ont sensibilisé à leur approche préventive de l'épuisement et que j'ai souhaité partager avec mes collègues et donc particulièrement avec Sarah qui, depuis, travaille avec moi et on travaille ensemble pour déployer cette méthode donc en France, au départ dans la Manche et maintenant de façon plus vaste.
On va pouvoir parler de tout ça. Et Sarah, du coup ?
Oui, alors moi j'ai un parcours assez similaire à celui d'Ophélie en fait, hein, donc également psychologue formée en neuropsychologie avec initialement plutôt un accompagnement de personnes présentant des lésions acquises, donc c'est-à-dire du post-AVC, post-trauma crânien et de leurs aidants, et puis aussi un engagement assez rapide dans ma carrière auprès de France Alzheimer qui m'a permis de rencontrer Ophélie et donc d'entamer ce chemin avec elle.
Oui, parce que vous êtes amenés à travailler ensemble et à intervenir pour France Alzheimer et maladies apparentées. Alors, on va parler de cette formation que vous proposez aux aidants. Ophélie nous l'a déjà un petit peu annoncé. C'est une approche préventive de l'épuisement qui, à la base, vient du Canada, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce que ce dispositif a de particulier, de novateur?
Alors, du coup, Lorraine et Michel ont travaillé sur cette thématique depuis de nombreuses années. Et donc, dans les premiers travaux et les premières recherches qu'elles ont effectuées, elles ont constaté que le sujet était quand même un sujet très pauvre et qu'il n'y avait pas d'études vraiment permettant de comprendre le mécanisme dynamique de l'épuisement et donc de pouvoir trouver des axes de prévention très concrets. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont travaillé auprès des aidants, en fait, puisqu'elles étaient professionnelles au Canada. Et elles ont questionné ce public de façon très pointue pour pouvoir comprendre, en fait, comment les aidants pouvaient être amenés à s'épuiser plutôt que d'accueillir leurs signaux d'alerte avec un épuisement déjà très avéré. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont pu mettre en évidence les mécanismes qui sont actifs et qui vont conduire la personne à s'épuiser.
D'accord, donc c'est une manière en fait de mieux comprendre l'épuisement pour mieux le prévenir.
Exactement.
Alors, on va rentrer du coup vraiment dans le vif là, du sujet, si vous le voulez bien. Concrètement, du coup, ce dispositif, il implique quoi? J'ai cru comprendre qu'il fonctionnait avec des ateliers. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous en parler?
Oui, tout à fait. Alors, on a conçu en fait des ateliers par rapport à la trame hein, pour que cette méthode soit efficace. Il faut passer par un certain nombre d'étapes en fait qui vont permettre petit à petit aux proches aidants de mettre en place des changements pour protéger leur santé. Et ça ne se fait pas si facilement, ça ne se fait pas en un seul atelier, mais en suivant tout un cheminement. Et donc, en fait, cet accompagnement proposé aux proches aidants, il est organisé selon 7 ateliers, avec un thème par atelier, la compréhension du parcours de l'aidant, où j'en suis dans mon parcours d'aidant, quelles sont mes perceptions de ce rôle. Dans le deuxième atelier, la compréhension du fonctionnement de notre énergie, hein, au sens de carburant, comment on fonctionne individuellement, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous fait en dépenser. On passe ensuite au troisième atelier sur le thème de la culpabilité, qu'on sait être un thème assez présent hein, dans le discours des proches aidants. Et donc, il faut passer par une compréhension de ce mécanisme-là pour continuer à avancer sur la compréhension de l'épuisement. On évoquera ensuite dans l'atelier suivant les besoins. Quels sont mes besoins, le droit d'avoir des besoins en tant que proche aidant, pour permettre ensuite de venir questionner la notion de choix, comment je fais des choix aussi pour protéger ma santé, pour glisser doucement vers la mise en place des changements concrets. Et enfin, le dernier atelier, lui, est consacré au thème de l'engagement. Comment je m'engage envers moi-même et envers les autres à maintenir les changements que j'ai déjà entamés et à en effectuer d'autres pour protéger ma santé et ainsi pouvoir continuer à accompagner mon proche.
Ça se passe en combien de temps, du coup, ces 7 ateliers que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'aidant qui va participer à cette formation, à ce dispositif, et du coup qui va suivre chacun des ateliers. Ça se passe sur combien de temps? Est-ce que ça s'étale sur plusieurs mois? Ça dépend des personnes?
Dans la conception initiale, on a prévu effectivement 7 ateliers de 2 heures. Et puis, chaque atelier est espacé idéalement de minimum 2 semaines, maximum 3 semaines. Donc ça, bien sûr, c'est dans la théorie de la conception. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est que ce soit aussi un accompagnement qui permette entre chaque séance de venir continuer à réfléchir, à mettre en place de nouveaux éléments dans son quotidien. Et c'est ce qui nourrit en fait les séances suivantes. Donc dans la conception originelle, on est sur 7 ateliers de 2 heures. Espacé de 2 à 3 semaines chacun.
Très bien. Ce qui laisse effectivement la place à la réflexion pour l'aidant et puis à mettre en place certaines bonnes pratiques. Lors de ces ateliers, vous les amenez aussi à avoir un peu voilà, du pratico-pratique, des gestes à mettre en place au quotidien, ce genre de choses, ou c'est plutôt à eux d'avoir cette réflexion après les ateliers?
Alors en fait, comme l'a expliqué Sarah, c'est que chaque atelier va être consacré à une thématique. Au départ, c'est déjà une nouvelle façon pour eux de bénéficier d'une action, notamment des actions France Alzheimer. On a choisi le mot atelier puisqu'effectivement, cette méthode Arcan-Brissette, elle s'appuie sur un certain nombre d'autres techniques, notamment canadiennes, où justement, on n'est pas sur uniquement des échanges verbaux, sur un groupe de paroles classiques ou une formation descendante. Là, on est sur d'autres techniques d'intervention. Les psychologues qui animent ces séances-là, puisqu'effectivement, là, comme on le disait tout à l'heure, on est en train de les déployer de façon plus vaste, ça nécessite de pouvoir solliciter les aidants, les faire participer, les mettre en mouvement lors des séances. L'idée, c'est qu'ils puissent s'approprier ce qu'on leur transmet et qu'ils puissent vraiment très vite comprendre ce qui se passe chez eux. Puisque Sarah l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur une compréhension très individuelle. Chaque thématique va amener des questionnements propres et individuels. Les premières séances sont des séances qui vont venir beaucoup trouver justement cette compréhension de soi. Et donc, on n'engage pas les aidants encore à ce stade-là à mettre en place réellement des changements importants puisqu'on sait qu'il faut y aller pas après pas. Le premier petit pas, déjà, c'est de pouvoir comprendre. C'est vraiment l'objectif des premiers ateliers en termes d'énergie, comme ça a été dit tout à l'heure, en termes de motivation, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté d'accompagner leurs proches, et puis aussi sur ce sentiment de culpabilité. Et en fait, quand les aidants accèdent à certains éléments de compréhension, finalement, les tout premiers changements vont se mettre en place de façon presque inconsciente, et même sans qu'on les ait engagés à ce qu'il y ait des changements d'ici la prochaine séance, finalement, ça se met en place. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la compréhension qu'ils ont eue lors de la séance leur permet, après, dans le quotidien, d'identifier justement les situations qui sont énergivores pour eux ou quand est-ce qu'il y a de la culpabilité. Ils vont être un petit peu plus aguerris dans le repérage au quotidien de ce qu'ils ont pu voir en atelier. Et puis ensuite, quand on aborde les séances plutôt sur les besoins, les choix, les changements, effectivement, on les invite à verbaliser concrètement des petits pas, des petits choix qu'ils pourraient faire pour écouter, pour répondre à leurs besoins et préserver leur santé.
Alors, vous disiez notamment que lors de ces ateliers, vous les invitiez à être en mouvement, que vous sollicitiez du coup plusieurs sens. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être nous parler justement d'un des ateliers que les auditeurs aidants puissent un peu mieux comprendre en fait comment ça se déroule un atelier?
Alors, en fait, du coup, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Mais du coup, si on va dans l'ordre des thématiques, la première thématique étant le parcours de l'aide, eh bien, dès cette thématique-là, déjà, alors on axe un discours très positif, c'est-à-dire dès cette thématique-là, on essaye de leur faire verbaliser aussi leur qualité en tant qu'aidant, parce que souvent, ce sentiment de culpabilité dont on parlait tout à l'heure peut amener plutôt des éléments négatifs. Et puis, sur cette thématique du parcours de l'aidant, au-delà de l'explication du parcours, nous disposons des feuilles de paperboard qui reprennent en fait chaque étape du parcours dans la salle. On choisit volontairement l'endroit où on place ces feuilles, c'est-à-dire que quand je rentre dans le parcours, c'est finalement la porte d'entrée. Et puis quand je suis à la dernière étape, qui est le seuil de rupture, c'est au moment où je suis dans l'épuisement. Donc, en fonction de la salle dans laquelle on intervient, on va choisir où est-ce qu'on va mettre cette dernière feuille, symboliquement un peu au pied du mur ou dans un endroit un petit peu plus sombre ou plus désagréable. Et donc, une fois qu'on a fait l'explication, qu'on fait debout, du coup, où on va faire le parcours ensemble, les aidants sont invités à se positionner à l'étape où ils pensent être. Cette façon d'animer dès le début, dès la première séance, va faire qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes puisque je me positionne physiquement à une étape du parcours et donc il est encore plus difficile pour moi de nier le fait que peut-être je suis à l'étape de l'épuisement. Et donc souvent ça s'accompagne aussi du coup d'une prise de conscience très importante avec des émotions qui sont présentes qui s'expriment à ce moment-là dès le premier atelier. Et donc, on va poursuivre ensuite avec plein d'autres outils comme ça où l'idée, c'est qu'ils puissent manipuler ensuite sur cette thématique du parcours. Ils vont manipuler un sac à dos, ils vont mettre les objets qui leur coûtent dans le quotidien, les ascensions aussi à un poids. Et puis après, ils vont porter le sac à dos. Enfin, on est vraiment sur quelque chose où on illustre le concept avec des outils très concrets que les aidants vont manipuler à chaque séance.
C'est hyper révélateur du coup pour eux et ça les aide à avancer d'étape en étape et d'atelier en atelier, c'est super. Merci beaucoup de nous expliquer ça et merci aussi de déployer ce dispositif. Donc vous l'aviez d'abord mis en place dans le nord de la France et c'est sur le point où c'est déjà en train de devenir un dispositif national, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors en fait, on a eu donc la chance au départ de connaître Lorraine et Michel via Ophélie, qui nous a permis à plusieurs psychologues de l'association d'être formés à leur approche. Et donc très vite, il est apparu, il est presque nécessaire de pouvoir en faire bénéficier les proches des dents qu'on accompagnait. Et donc, il y a d'abord eu une phase expérimentale, grâce au président de l'association de la Manche, Jean Saunier, qui nous a soutenus dans cette démarche et qui nous a dit on se lance quoi, on teste ce format d'atelier auprès des aidants. Et donc le fait est que rapidement on s'est rendu compte de la pertinence de ces ateliers, de leur complémentarité aussi avec la formation des aidants, qui est une traction de l'association. Et donc très rapidement cette réflexion de dire comment on peut en faire bénéficier le plus de proches aidants possible, ça a été de se dire il faut qu'on arrive à travailler le déploiement de cette action au niveau national. Et donc, comme vous le disiez, c'est maintenant chose faite. Après 2 ans de collaboration, de réflexion, d'échange, on a pu, au mois de janvier, commencer à former les premières psychologues qui pourront à leur tour déployer les ateliers dans leurs antennes respectives.
Vous parliez à l'instant des bénéfices de cette formation et puis de sa complémentarité avec d'autres types de formations ou d'ateliers mis en place par l'association. Parmi ces bénéfices, j'imagine que les retours des aidants qui ont participé à ces ateliers avec vous d'abord dans le Nord ont été importants. Qu'est-ce que vous disent ces aidants en général? En tout cas, quel changement ces ateliers apportent chez ces personnes qui ont peut-être déjà suivi d'autres formations ou d'autres ateliers au préalable?
Eh bien, ce qui marque un petit peu la différence parfois par rapport à d'autres actions qu'ils ont vécues, c'est que là, on se centre vraiment sur eux. Alors bien sûr, on évoque leurs proches et leur quotidien, mais voilà, on a presque cette invention de dire, on est là pour parler de vous et de votre santé à vous. Et donc, rien que ça, ça permet déjà une écoute qui est différente et un partage qui est différent aussi au niveau des échanges au sein du groupe. Et en fait, comme le disait Ophélie, dès le premier atelier, ça peut être vecteur de beaucoup d'émotions et ça vient aussi libérer une parole. permettent déjà d'évoquer des éléments du quotidien, parfois des ratés de patience qu'on peut vivre ou des pensées inavouables. Et déjà, on vient nous normaliser en fait ces choses-là en disant bah oui, ce que vous vivez, ça fait partie du parcours de l'aide, on peut en parler. Petit à petit, on va venir lever les freins qui vont permettre aux aidants de s'autoriser à comprendre leur fonctionnement et s'autoriser à dire bah oui, en fait, je peux être présent pour mon proche, mais je peux aussi prendre soin de moi. Et donc, petit à petit, on va avoir des aidants qui vont s'autoriser à mettre en place des solutions de répit, par exemple. Alors, ce qui n'autorisait pas jusque-là, des aidants qui vont s'autoriser à demander à leurs proches un peu de soutien. On a des témoignages sur des aidants aussi qui vont dire, bah voilà, moi maintenant, c'est vrai, je m'autorise à partir quelques jours seul pendant que mon proche est en hébergement temporaire. Je m'autorise à aller chez le coiffeur. Je me souviens d'une participante hein, qui m'avait dit, ah bah voilà, moi pour la première fois, je me suis autorisée à aller chez l'esthéticienne, ce que j'ai pas fait depuis 4 ou 5 ans parce que je m'en donnais pas le droit. Parce que je vais laisser Ophélie compléter, hein.
Oui, alors tout à fait. C'est vrai que ces bénéfices sont très rapides et ils sont assez parlants. Et on a des exemples aussi très frappants où on développe aussi un langage, les aidants développent aussi un langage commun entre eux et aussi avec nous, où c'est aussi plus facile pour eux de se faire comprendre vis-à-vis des autres, même dans leur système familial et même en nous appelant nous. C'est-à-dire que, par exemple, la deuxième thématique sur l'énergie, nous utilisons l'image de l'élastique. Et donc, c'est aussi leur permettre, après les ateliers, de pouvoir toujours être en alerte et de pouvoir exprimer quand est-ce que la situation devient complexe au travers une autre façon que de dire « je suis épuisée », mais tout simplement « bon, bah là, écoute, mon élastique, il est tendu et il faut que vraiment que je fasse quelque chose ». Et ça devient un langage qui permet aussi de s'autoriser peut-être plus facilement à alerter, à mettre les limites, à faire attention à soi. Et puis, comme le disait Sarah, on a des exemples d'aidants qui ont pu totalement prendre et aller vers des solutions de répit qui jusqu'ici étaient difficiles. Et même si, ça c'est les témoignages nous le confirment, et c'est pour ça qu'on l'a travaillé en complémentarité de la formation des aidants. C'est-à-dire même si sur cette formation des aidants, ils ont l'information des aides qu'ils peuvent solliciter, ils ont même parfois les contacts, les numéros de téléphone, ils ont tout en leur possession. Mais le cap est difficile à franchir. Et en fait, ces ateliers viennent lever les freins qui empêchent de mettre en place ce que la formation des aidants leur a permis de voir. Par exemple, je suis sûre que Jacques serait très content qu'on parle de lui sur cette émission. Jacques est vraiment l'incarnation des bénéfices de toutes les actions France Alzheimer, je dirais, puisqu'il a fait à la fois la formation des aidants, ses ateliers de prévention de l'épuisement, puis il a bénéficié en parallèle des entretiens individuels, etc. Et donc, Jacques a petit à petit, grâce à toutes ses approches et notamment aux ateliers, a lâché prise, a accepté les relais à la maison, un hébergement temporaire, d'abord à condition que lui-même soit en soins. C'était une façon de se déculpabiliser. Donc, on avait travaillé ça pour que le médecin puisse l'orienter vers une thalasso puisqu'il avait des problèmes moteurs. Et donc, ça l'a déculpabilisé sur le premier hébergement temporaire. Et puis, finalement, bah, ça a aidé aussi à ce qu'il y ait un deuxième hébergement temporaire pendant qu'il était en thalasso. Et puis, petit à petit, il a eu recours à ces hébergements de façon plus régulière et en partant en vacances. Et puis, en s'autorisant à 83 ans, ben, à découvrir aussi et à expérimenter des choses qu'il n'avait jamais expérimentées de sa vie. Et donc, aujourd'hui, son épouse est en hébergement permanent. Il ne s'oblige pas à avoir des jours de visite particuliers, mais il va la voir régulièrement et il continue à vivre pour lui et à continuer d'expérimenter des nouvelles choses en se disant bah, « j'ai 80 ans, mais ma vie n'est pas finie et j'ai le droit de continuer à expérimenter tout ce que je n'ai pas pu encore faire jusqu'ici ».
C'est une belle approche préventive de l'épuisement. On voit que ça peut apporter beaucoup aux aidants. Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être du coup tenter ce nouveau dispositif, comment on fait du coup pour rejoindre ces ateliers? À qui on s'adresse?
Alors, concernant les aidants, hein, on les invite bien sûr à se rapprocher de l'antenne départementale à laquelle ils s'adressent, alors soit habituellement ou à laquelle ils ne se sont pas adressés encore. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, les psychologues sont en cours de formation, donc va pouvoir y avoir un déploiement, voilà, dans l'année, hein, des premiers ateliers dans les autres départements que le nôtre. Donc voilà, on invite les proches aidants que ça intéresse à contacter leur antenne départementale pour savoir si c'est une action qui existe déjà ou qui va bientôt exister dans leur département. De la même façon que la formation des aidants, hein, c'est une action qui est proposée à titre gratuit.
Et puis on peut aussi se rapprocher de vous sur votre site internet.
Oui, tout à fait. Alors via le site apepsenco.fr, hein, il y a possibilité de nous contacter via le formulaire de contact du site, en fait, où on sera tout à fait d'accord pour partager des informations qu'on a et renseigner les proches aidants qui le souhaitent.
Eh bien, merci à toutes les deux, Ophélie Gilbert et Sarah Tesson. Merci pour ces précieuses informations et puis surtout pour tout le travail mené. On a hâte d'en savoir plus hein, sur le déploiement de ce dispositif au cœur de toute la France. Pour plus de renseignements du coup sur les différents ateliers que vous proposez, on l'aura bien compris, on peut contacter son antenne locale de France Alzheimer et maladies apparentées. Et on peut aussi vous retrouver du coup sur votre site internet. Je rappelle votre adresse, apeps&co.fr. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vos questions, nos réponses sur radiofrancealzheimer.org, où vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos autres émissions. On vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.